En règle générale, quand on parle d'un diagnostic médical, il y a cette attente de précision absolue. C'est presque, enfin, c'est de l'ingénierie, quoi.
Ah ouais, tout à fait. On cherche une clarté immédiate, une réponse vraiment tranchée.
Exactement. Genre, on se casse le bras, on va faire une radio, et l'image montre cette ligne blanche bien nette sur un fond noir. Le médecin n'a qu'à pointer l'écran du doigt en disant, bah voilà, c'est là. C'est ça le problème.
Cassé ou pas cassé.
C'est ça, c'est net et sans bavure.
Et c'est extrêmement réconfortant d'une certaine manière. Je veux dire, l'esprit humain adore quand les choses sont visibles, mesurables et surtout catégorisables.
Bah oui, parce que quand on peut isoler la cause d'un problème, on a l'illusion de le maîtriser.
Sauf que, bah ensuite, on quitte la salle de radiographie, on entre dans le domaine super complexe de la souffrance humaine, de la douleur profonde, et soudainement, cette belle machine à rayons X, elle ne fonctionne plus du tout.
L'image devient complètement floue. On se retrouve face à un paysage diagnostique qui est, pour être tout à fait honnête, extrêmement trouble.
C'est la définition même de nager en eau trouble, ouais. On cherche désespérément une image claire, une cause directe, là où en fait il n'y a que des nuances incroyablement complexes.
Et des mystères qui nous dépassent totalement.
Et c'est exactement ce qui nous amène à notre exploration approfondie d'aujourd'hui. On va se plonger dans des sources fascinantes, plus précisément les notes de la 28e session de John Walton.
Un texte majeur. C'est clair. Ça traite de la théologie de la souffrance à travers le célèbre livre de Job. Donc, la mission aujourd'hui, bon, analysons ça en détail, parce qu'il faut dissiper une énorme idée reçue tout de suite.
Laquelle ?
Eh bien, quand on aborde le livre de Job, presque tout le monde s'attend à y trouver un manuel d'instruction.
Ah oui, un mode d'emploi de la douleur, en quelque sorte. C'est très commun.
C'est ça. On se dit, super, voici le texte ancien qui va enfin m'expliquer pourquoi la souffrance existe dans l'univers. Ou alors, voici le guide, étape par étape, sur la façon dont on devrait se comporter face au drame pour être un bon croyant.
Et c'est un malentendu monumental.
Ah ouais. Ah,
totalement. Et ça mène souvent à de grandes déceptions pour ceux qui lisent ça avec cette attente. Parce qu'en parcourant nos sources, une chose est catégorique, c'est pas du tout l'objectif de ce texte.
Donc ça sert à quoi, en fait ?
En fait, le véritable objectif de Job, c'est pas de fournir des réponses philosophiques toutes faites sur l'origine du mal. Il cherche pas non plus à nous dicter un comportement genre stoïque ou parfait. Son intention est beaucoup plus subtile et franchement beaucoup plus exigeante.
Plus exigeante comment ?
Eh bien, il s'agit de nous apprendre à penser correctement à Dieu pendant que la souffrance a lieu. C'est une nuance cruciale.
Ah, je vois. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas de résoudre une équation mathématique, mais de maintenir une relation au beau milieu du chaos.
Exactement. Et c'est là que le bât blesse pour beaucoup de lecteurs modernes. Très souvent, les sceptiques utilisent l'existence même de la souffrance dans le monde pour déclarer que Dieu est soit inadéquat, soit tout simplement inexistant.
Ouais, le fameux paradoxe d'Épicure, quoi.
C'est ça. Le raisonnement classique, c'est de se dire, bon, si un être divin est tout-puissant et fondamentalement bon, et que la souffrance extrême existe, alors cet être a échoué dans sa gestion de l'univers. Mais cette conclusion, selon Walton, elle repose sur une prémisse très spécifique qu'il démonte complètement.
Laquelle ?
L'attente que Dieu réponde à des critères purement humains de réussite, d'équité et de confort.
Ce qui est fascinant parce que c'est une erreur de catégorie totale, en fait. Exiger que le divin s'explique selon nos propres critères humains de justice immédiate, c'est un peu... c'est littéralement comme utiliser un thermomètre pour essayer de mesurer le passage du temps.
J'adore cette analogie. On obtient un chiffre, certes, mais il correspond absolument pas à la réalité qu'on essaye d'évaluer.
Voilà, on utilise tout simplement le mauvais outil. On se place volontiers dans la position du juge, tu vois, avec un petit marteau à la main, en exigeant que le créateur d'un univers vienne à la barre pour justifier ses choix.
C'est très arrogant quand on y pense.
Grave. Et les notes de Walton sont claires dès le départ là-dessus. Il n'y a aucune théologie viable de la souffrance qui puisse émerger si on part du principe que c'est à nous de noter le divin.
Tout à fait. Et puisque l'objectif, c'est pas de juger, mais bien de comprendre comment articuler notre pensée face à cette douleur, les sources nous disent qu'il faut d'abord définir l'étendue exacte de cette douleur. C'est la première grande perspective de Walton.
D'accord. La portée de la souffrance ?
C'est ça. Le document insiste lourdement sur un fait. La souffrance est universelle. C'est le lot commun, la toile de fond incontournable de toute l'humanité.
Donc, c'est pas une anomalie statistique qui touche quelques malchanceux ?
Loin de là. C'est pas un phénomène où la tragédie choisirait arbitrairement une personne ici, juste par malchance, et épargnerait totalement une autre personne là-bas. La littérature biblique présente la souffrance comme une expérience profondément individuelle, intime, mais pourtant totalement collective. Personne ne passe entre les mailles du filet.
Ouais, et le spectre de cette souffrance, tel qu'il est détaillé dans les notes de Walton, il est vertigineux quand on prend le temps d'y penser.
Il couvre vraiment tout.
Bah oui, et les sources énumèrent des niveaux de douleur qui couvrent absolument toutes les facettes de l'existence. On a la souffrance physique, bon, ce à quoi on pense en premier, la douleur chronique, les blessures invalidantes, la maladie pure.
Mais ensuite, on plonge dans toute la dimension psychologique, qui est parfois bien plus dévastatrice, en fait.
Ouais, le poids de la honte, l'anxiété paralysante... Le fait d'être pris au piège dans des relations toxiques.
Et le document élargit encore la focale en parlant de la souffrance circonstancielle.
C'est-à-dire ?
Naviguer dans des situations qu'on n'a pas choisies.
Exactement.
Le fait de vivre avec des conditions complexes qui ne sont pas notre faute immédiate. Genre un trouble du comportement alimentaire, le VIH ou une maladie dégénérative. C'est un contexte qui impose une friction constante.
Et ça va encore plus loin dans les notes. On parle aussi de souffrance systémique. Des populations entières écrasées par des régimes répressifs, les victimes de trafic humain, la pauvreté, la famine. Là, l'individu est broyé par une machine bien plus grande que lui.
Ouais, c'est terrifiant. Et il y a une dernière catégorie que Walton mentionne, la souffrance de substitution.
Ah oui, ce terme m'a vraiment interpellé en lisant les sources.
C'est très puissant. C'est le fait de souffrir profondément, non pas parce qu'on est soi-même malade, mais simplement parce qu'on s'occupe de quelqu'un d'autre qui souffre. L'épuisement émotionnel de prendre soin d'un proche en fin de vie, par exemple. C'est une douleur qui naît littéralement de l'amour, en fait.
C'est beau et tragique à la fois. Mais du coup, face à une liste aussi longue, aussi exhaustive, une question presque technique se pose, tu vois.
Je t'écoute.
Si l'univers était un programme informatique... Est-ce que ça veut dire que le logiciel même de l'humanité est défectueux dès le départ? Est-ce qu'il y a un bug fondamental dans le code source de la création pour qu'il y ait autant de douleurs?
Ce qui est fascinant ici, et c'est la deuxième perspective de notre analyse, c'est que cette question trouve une réponse très inattendue.
C'est pas un bug.
La souffrance est décrite comme une contingence d'une création qui est toujours, et c'est le terme clé, en cours de processus. L'idée maîtresse à retenir, c'est qu'on ne vit pas encore dans un monde d'ordre total. Selon cette théologie, l'ordre parfait est réservé à une nouvelle création future. Actuellement, la souffrance naît de ce non-ordre.
Donc, si je comprends bien, la création est un chantier en cours.
C'est une excellente façon de le formuler, ouais.
C'est un peu comme se plaindre de la poussière omniprésente, du bruit des marteaux-piqueurs à 6 heures du mat, et des courants d'air glaçants dans une maison qui est encore en pleine construction.
C'est tout à fait ça. Si on entre dans cette maison en s'attendant à y trouver un salon immaculé avec les meubles dépoussiérés et le chauffage réglé au degré près, on va être logiquement furieux.
Bah oui, on va crier sur l'architecte.
Mais si on comprend que les murs sont pas encore tous montés, que le toit n'est pas totalement posé, alors la poussière et le froid prennent un tout autre sens. C'est plus un échec de l'architecte, c'est juste la réalité inhérente d'un travail qui n'est pas terminé.
Et si on pousse cette réflexion sur la conception même de la biologie humaine, parce que les notes abordent ça, le système nerveux par exemple, a été conçu pour que la douleur nous serve d'avertissement face aux dangers physiques.
C'est un mécanisme de survie brutal mais indispensable.
Ouais, si on sent plus la brûlure de la flamme sur notre main, notre espérance de vie chute drastiquement. Donc la douleur physique, dans ce cadre de chantier, c'est une nécessité absolue.
Et là où l'analyse devient encore plus profonde, c'est sur la dimension émotionnelle.
L'idée que la capacité même de ressentir des émotions nous expose au danger.
Mathématiquement, oui. La capacité d'aimer profondément quelqu'un, de s'attacher à un partenaire, ça nous rend inévitablement vulnérables au chagrin. Si la personne qu'on aime souffre ou disparaît, on souffre. On ne pourrait pas être blessé émotionnellement si on était incapable d'attachement.
Donc la vulnérabilité est le prix d'entrée, quoi. C'est le billet incontournable qu'il faut payer pour avoir un cœur capable d'aimer. Sans ça, on serait que des robots sans conscience.
Totalement. Ce qui implique, et c'est majeur, qu'il faut radicalement redéfinir notre notion de normalité. Une vie normale, selon la lecture du livre de Job, c'est absolument pas une vie exempte de souffrance. C'est une illusion totale, presque toxique de penser ça.
L'attente d'une vie sans friction, c'est la racine de beaucoup de crises de foi, en fait.
Ah oui, je suis convaincue de ça. Si on intègre la souffrance comme une donnée de base d'une création en cours, elle semblera plus être une anomalie scandaleuse quand elle survient. Bon, attention, soyons très clairs, comprendre ça intellectuellement, ça rend pas la douleur physique plus facile à supporter sur le moment, hein.
Non, la douleur fait mal, point.
Exactement. Mais ça modifie l'attitude intérieure qu'on adopte. On arrête de se dire en boucle « Pourquoi moi ? J'ai été injustement ciblé par le destin. » On réalise que c'est l'expérience humaine globale qui se déploie.
Ok, je vois. L'univers est un chantier, la douleur fait partie de la construction. Mais ça soulève un problème immense pour moi. Qu'en est-il des drames individuels ?
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Mais si on garde la métaphore de la maison en construction, est-ce que les briques qui nous tombent sur la tête sont de simples accidents dus au non-ordre, ou est-ce que le chef de chantier, là-haut, les lâche délibérément sur nous parce qu'on a fait une bêtise la veille ?
Ah, la fameuse idée de la punition.
Oui, parce qu'on touche à un point hypersensible. L'idée si répandue que la souffrance serait intrinsèquement liée au péché personnel. Genre, si je souffre, c'est que je l'ai mérité.
C'est la troisième perspective de Walton, et c'est un point de bascule fondamental. Il faut impérativement déconnecter la souffrance de l'idée de punition divine systématique.
D'accord, mais parfois on cause nos propres malheurs, non ?
Bien sûr, les sources précisent qu'il y a des nuances. Parfois, oui, la souffrance est la conséquence directe d'un acte destructeur. C'est ce que les textes appellent le désordre créé par l'humain. Si quelqu'un détruit sa santé par des choix toxiques répétés, il crée de la souffrance, la cause et l'effet sont visibles.
Oui, c'est de la logique.
Mais la règle d'or de Job, c'est qu'on ne peut jamais, au grand jamais, présumer que la tragédie inexpliquée qui frappe un individu est un acte de punition divine. On ne peut pas regarder la maladie de quelqu'un et se dire « Oh, il a dû faire un truc terrible en secret pour mériter ça ».
C'est fou parce que c'est tellement instinctif comme réaction. Et d'ailleurs, il y a un détail historique crucial dans les notes pour expliquer pourquoi on a tant de mal avec ça. À l'époque biblique, l'idée dominante, c'était que les dieux micro-géraient absolument tout.
C'est ça. Et les Israélites avaient ce qu'on appelait des voix prophétiques. C'est un élément de contexte fascinant. C'était des figures d'autorité reconnues, dont le rôle spécifique était de certifier ce qui relevait d'une punition de Dieu ou non. Ils faisaient le lien direct.
Or, le texte de Walton souligne très clairement qu'aujourd'hui, l'humanité ne possède plus ses voies prophétiques. On n'a pas d'accès direct au tableau de bord divin pour attribuer des causes spirituelles définitives à des accidents de voiture.
C'est réduire le divin à un distributeur automatique de karma, c'est ridicule.
Exactement. Mais attends, je dois faire l'avocat du diable de ce qu'on dit ici, parce qu'il y a une contradiction apparente.
Vas-y.
Qu'en est-il de certains textes très connus, comme dans les lettres de Paul, Galates 6-7, qui affirment très clairement qu'on récolte ce que l'on sème ? Il n'y a pas là, noir sur blanc, l'idée d'une ligne directe entre notre comportement et ce qui nous arrive ?
C'est une excellente question. Et c'est exactement là qu'il faut faire preuve de prudence interprétative. Oui, ce principe de récolter ce qu'on sème, ça reflète une sagesse générale indéniable sur les conséquences naturelles de nos actions. Mais Walton insiste lourdement. Ça nous autorise en aucun cas à faire de l'ingénierie inverse.
De l'ingénierie inverse, c'est-à-dire ?
On ne peut pas tracer une ligne directe, mathématique, entre une tragédie présente et un comportement passé, caché. C'est une grave erreur de logique et de compassion de voir quelqu'un souffrir d'un cancer et d'en déduire qu'il a semé le mal spirituellement, tu vois.
C'est d'ailleurs exactement l'erreur que font les amis de Job dans le récit. Ils passent des chapitres entiers à le harceler en disant « Allez, avoue, qu'est-ce que t'as fait de mal pour mériter tout ça ?»
Absolument. Ce sont les champions de cette théologie transactionnelle toxique. Et pour illustrer la véritable complexité du truc, les sources s'appuient sur une citation extrêmement puissante du physicien et théologien britannique John Polkinghorne.
Ah oui, cette citation est incroyable.
Il affirme que la souffrance dans le monde, c'est pas dû à une faiblesse de Dieu ou à un oubli. C'est plutôt, et c'est une phrase à peser attentivement, le coût inéluctable d'une création autorisée à être autre que Dieu.
Le coût inéluctable d'une création autorisée à être autre que Dieu. C'est, waouh, incroyablement profond. Ça change tout le paradigme.
Totalement.
Ça signifie concrètement que pour que l'univers existe par lui-même, pour qu'il soit pas juste une, je sais pas, une extension fantoche du divin, avec ses propres lois physiques, son autonomie, il fallait qu'il y ait une distance. Une altérité.
C'est ça. Et cette indépendance structurelle, bah, elle inclut le risque inévitable du hasard, des tremblements de terre, des mutations cellulaires incontrôlées et des mauvais choix. Sans ce risque, la création ne serait qu'une marionnette.
D'accord, mais alors, ça nous amène à un problème très concret, et c'est la quatrième perspective. Si la souffrance, c'est pas une punition, mais juste le coût inéluctable de l'existence, comment on est censé gérer ça quand la tragédie frappe à notre porte ? Quelle est l'utilité pratique de savoir que l'univers est autre que Dieu, quand on a le cœur brisé.
C'est là que l'analyse passe à la résilience pratique. Les notes abordent l'idée que la souffrance, bien qu'indésirable, devient l'opportunité principale pour forger le caractère et approfondir la foi. Les textes s'appuient sur Romains 5, qui parle de la souffrance produisant la persévérance.
Donc chaque once de souffrance traversée contribue à forger notre identité.
Exactement. On ne ressort jamais neutre de la douleur. Et il est fondamental d'ajuster nos attentes envers la vie. Nulle part dans la théologie biblique, il n'est promis que le but de Dieu soit de rendre tout le monde heureux, épanoui, en bonne santé tout le temps.
Ce qui demande un changement de paradigme complet sur la prière, en fait. C'est un peu comme, comme aller à la salle de sport, tu vois.
Comment ça reste ?
Imaginons qu'on se trouve devant une barre de musculation hyper lourde. Notre premier instinct face à la difficulté, c'est de demander à l'entraîneur d'enlever les poids de la barre pour que ça soit facile, pour qu'on n'ait pas à forcer.
Sauf que si tu soulèves une barre à vide, bon, tu risques rien, mais tu développes aucune musculature. Tu stagnes.
Voilà. Le but de la salle de sport, c'est pas le confort. L'idéal, c'est de demander à l'entraîneur de rester debout, juste derrière nous, pour s'assurer qu'on soulève la charge maximale en toute sécurité. On veut qu'il nous aide à supporter le poids, pas qu'il le fasse disparaître par magie.
C'est une super analogie, ouais.
Si on ressort de la salle déçu parce qu'on a mal aux muscles, c'est qu'on n'avait rien compris au concept de l'entraînement. Spirituellement, c'est pareil. Si on se sent trahi parce qu'on souffre, c'est qu'on s'attendait à ce que la salle de sport cosmique n'ait pas de poids.
C'est très pertinent parce que ça implique un effort actif. On ne subit pas passivement. Et ça rejoint la promesse de Dieu dans les Écritures, qui est d'aider les personnes à traverser les eaux troubles, pas de les empêcher d'y entrer.
Traverser les eaux troubles, oui. Pas d'assécher la rivière ou de nous fournir un parapluie pour éviter d'être mouillé.
Et cette notion de traverser l'épreuve activement, de trouver une force à l'intérieur de la faiblesse, ça nous amène à la cinquième et dernière perspective de Walton, le modèle central de la théologie chrétienne.
Ah, on touche au cœur du réacteur là. Comment ça s'incarne concrètement dans une chambre d'hôpital ou un cimetière cette idée ?
On participe mystérieusement à la souffrance du Christ, selon Philippiens 3.10. Théologiquement, c'est d'une radicalité inouïe. Dans l'Antiquité, un sauveur crucifié et torturé, c'était un scandale total.
Bah oui, les dieux étaient censés écraser leurs ennemis avec des éclairs, pas finir sur une croix.
Exactement. Le Christ inaugure une voie complètement contre-intuitive où le triomphe s'obtient à travers la défaite. La croix n'est pas un accident, c'est la preuve que le divin lui-même n'a pas évité les conséquences de cette création en processus. Il a plongé tête première.
C'est l'inverse absolu de nos attentes humaines. L'instinct de base, c'est de chercher la victoire par la domination, d'écraser la maladie. Mais en fait, il ne faut pas s'attendre à être toujours délivré de manière triomphante. Seul dans une boîte sombre.
Oui, mais vu à travers ce prisme, la souffrance cesse d'être un vide de sens absolu. Elle devient un lieu de communion. Celui qui souffre n'est plus un rebut de l'univers que Dieu a oublié. Il marche sur un chemin que le divin a lui-même foulé. Ça redonne une dignité extraordinaire à la personne brisée.
C'est vertigineux.
Ça transforme la nature même du gouffre. Pour synthétiser tout ça, la conclusion majeure, c'est qu'il faut abandonner l'idée que la souffrance puisse être totalement éliminée de l'expérience humaine.
Absolument. Et ça implique aussi de nettoyer notre vocabulaire. Dire que Dieu permet ou autorise un accident de voiture, ça projette l'image d'un bureaucrate céleste froid qui tamponne des dossiers de catastrophe. C'est une vision étriquée.
Et la valeur pratique de tout ça, pour ceux qui nous écoutent, c'est une libération immense. Ça nous enlève le fardeau de devoir trouver la réponse philosophique parfaite au problème du mal.
On n'est plus obligé d'être l'avocat de Dieu face au chaos, tu vois.
C'est ça. On n'a plus besoin de résoudre l'équation de l'univers avant d'avoir le droit de pleurer. L'important, c'est de trouver la force de continuer à honorer la vie, même quand tout espoir rationnel s'évapore.
Il s'agit de confiance dans l'obscurité, pas d'explication dans la lumière. Et pour conclure, j'aimerais revenir sur une pensée de Paul Kinghorn qui mérite qu'on s'y arrête longuement. Cette idée que la création doit être autre que Dieu.
Oui, la fameuse liberté.
Pensons-y sérieusement. Et si l'existence même de l'amour authentique et du véritable libre arbitre nécessitait absolument, structurellement, la possibilité du mal et de la tragédie profonde?
Comme si l'un ne pouvait exister sans l'ombre de l'autre.
Précisément. Sans ce risque inhérent de la brisure, la conscience humaine serait-elle autre chose qu'un simple programme informatique? Un code qui exécute une obéissance aveugle sans mérite? Peut-être que pour qu'il y ait une véritable relation basée sur le choix, le risque de la déchirure devait être écrit dans les fondations mêmes de la réalité.
L'amour véritable coûte très cher. C'est une pensée fascinante à ruminer. Et ça nous ramène inévitablement à notre métaphore de la radiographie du tout début. Quand on traverse la douleur, la machine à rayons X de la philosophie nous montrera jamais une fracture propre et binaire.
Non. Le diagnostic restera toujours trouble, fait d'ombre et de lumière.
Mais peut-être que ce que cette radio imparfaite révèle au final, au lieu d'une réponse froide et mécanique, c'est la réalité d'un être humain en plein processus. vulnérable, capable de ressentir intensément et qui, malgré la poussière aveuglante du chantier cosmique, continue de s'adapter, de guérir et de se forger.